Une heure en Palestine. Comme chaque semaine, sur Radio Galère 88.4 avec à la technique Sidi. Et dans le studio, le collectif Palestine en résistance et plus particulièrement Marseille-Gaza-Palestine. En arrivant tout à l'heure, je me disais que cette émission qui n'a pas été préparée allait être très chaotique. Et puis, dans le jardin de la friche, j'ai vu des gamins qui jouaient, des petits-enfants. À bicyclette, qui riait, qui chantait, qui était heureux. Et soudainement, cela a un peu effacé les images d'horreur que nous voyons, non pas sur les télévisions françaises, mais sur Al Jazeera, sur la BBC, y compris sur CNN. Car chez nous, on a la pudeur de ne pas nous montrer les cadavres d'enfants, quels qu'ils soient. On a la pudeur de nous mentir, de travestir les choses et de faire passer tous les Palestiniens pour des monstres assoiffés de sang qui doivent payer, qui doivent mourir. Alors, ce matin, j'ai écouté un petit peu sur France Culture une émission qui parlait du massacre parce qu'il faut aussi sortir des émotions, il faut sortir des réactions directes qui sont mises sur les télévisions ou des plateaux reçoivent des gens qui ont quasiment tous la même opinion. Et cette opinion est malheureusement contre le peuple palestinien. Ce matin, Jacques Semelin, qui est un spécialiste qui travaille depuis plus de 25 ans sur les notions de massacre, de génocide, de crime contre l'humanité, dit qu'il s'agit de travailler sur un objet monstrueux. Et donc, nous sommes tout de suite pris par l'émotion et ça n'épargne pas le chercheur. Il insiste sur le fait qu'essayer de comprendre le massacre, comme tout autre objet en sciences sociales, ce n'est ni l'excuser, ni le juger. Toutefois, il est bien conscient des limites que peut rencontrer le chercheur. On ne peut pas tout comprendre et personne ne demande à tout comprendre. Martin Legros, lui, note qu'il y a une distinction à faire entre le chercheur qui cherche à comprendre et l'explication, la compréhension dans le débat public. Ne faudrait-il donc pas nous appuyer davantage sur les sciences sociales pour une meilleure compréhension de ce genre d'événements ? Et effectivement, tous ces spécialistes de la guerre, tous ces spécialistes de la mort qui hantent les plateaux, qui ne font entendre qu'une seule voix pour aller à l'encontre du peuple palestinien dans la majorité des cas. Heureusement, il y a d'autres voix qui s'élèvent beaucoup plus sereines pour expliquer, non pas pour excuser, mais pour dire que si nous en sommes arrivés là, ce n'est pas le fruit du hasard. Jacques Semelin propose aussi ainsi une typologie du massacre pour saisir les différentes logiques de destruction. Ainsi, il y a la volonté de détruire pour soumettre, c'est-à-dire on va tuer une partie du groupe pour en soumettre la totalité. Il y a également l'objectif de détruire pour éradiquer, c'est-à-dire on va aussi détruire une partie du groupe pour le chasser parce que c'est un autre en trop. Enfin, il y a les massacres réalisés dans le but de détruire pour terroriser. Il insiste également sur la différence entre le massacre de proximité et le massacre à distance. Ces typologies permettent d'approcher les différentes logiques à l'œuvre dans le conflit israélo-palestinien, marqué par une montée aux extrêmes. Étudiant la part rationnelle et irrationnelle du massacre, Jacques Semelin insiste sur un troisième aspect, le massacre comme processus mental. C'est une opération consistant à voir un autre, à stigmatiser, à humilier, à violer, à exploiter, à chasser en partie ou en tout. Il y a ainsi une imbrication entre imaginaire et réel, ces fantasmes de destruction qui se développent à partir d'un autre qui est le voisin. Apolline Guillot relève l'importance de l'imaginaire également chez les populations se trouvant en dehors du massacre mais qui en prennent connaissance. Le massacre se passe au niveau du nombre de personnes tuées, mais il se passe aussi au niveau des chambres d'écho qui se créent autour de l'acte en lui-même. Et c'est quelque chose de nouveau que l'on voit apparaître avec les réseaux sociaux, le live streaming, avec l'information à continu, analyse-t-elle. Face à ces images d'une haute violence, comment garder de la distance avant de bien saisir ce qu'il se passe? Et je vous renvoie donc à cette émission de France Culture qui peut-être permettra de regarder les choses loin de ce qui nous est présenté sur le plateau. Après, je voudrais revenir, après avoir dit tout ça en préambule, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé pour nous depuis une quinzaine de jours. Le collectif Palestine en résistance a invité depuis plusieurs mois Madame Mariam Aboudaka, docteur en philosophie, membre du Front populaire de libération de la Palestine, de son bureau politique. Front populaire de libération de la Palestine, qui est membre de l'Organisation de libération de la Palestine, reconnue par l'État français, y compris reconnue par les autorités israéliennes depuis les accords d'Oslo. Et c'est à partir de l'OLP qu'a été créée l'Autorité nationale palestinienne, qui a une représentation diplomatique officielle à Paris, aux Nations Unies et à l'Union européenne. Lorsque nous avons invité Mme Aboudaka, c'était pour la faire intervenir sur les 30 ans d'Oslo qui ont eu lieu en septembre dernier, et nous n'avons pas pu faire à ce moment-là la conférence que nous voulions faire, tout simplement parce qu'il y avait la Coupe du monde de rugby et il y avait aussi la visite du pape. Donc nous avions fixé la date du 14 octobre. Donc les visas ont été demandés en bonne et due forme depuis plusieurs mois. Et au moins 16 villes de France se sont associées à cette invitation pour entendre ce que Mme Aboudaka avait à nous dire, puisqu'elle est aussi, outre ses fonctions politiques, elle est aussi présidente du conseil d'administration d'une association féministe, The Palestinian Development Women Study Association, sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard. Le visa a été accordé à Mme Aboudaka en bonne et due forme. Les services français font une enquête et il y a aussi, c'est un visa Schengen, donc les autres pays sont consultés avant de délivrer un visa. Sitôt que la venue de Mme Aboudaka a été détectée par les soutiens inconditionnels de l'État d'Israël, de l'État colonial israélien, Mathieu Lefebvre, député, Meir Habib, Éric Ciotti sont montés au créneau et ont déchaîné les foudres contre Mme Aboudaka, qualifiée de terroriste. La pression est montée. Et lorsqu'elle est arrivée en France, elle a pu tenir la première conférence qui s'est tenue à Paris dans une librairie. Elle est ensuite arrivée à Lyon où elle a pu tenir la seconde conférence. Et lorsqu'elle devait intervenir à l'université, eh bien, des hauts cris ont été poussés par ces mêmes députés, plus d'autres qui les ont rejoints, et toujours de la droite extrême ou de l'extrême droite, bien évidemment, pour faire pression sur la ministre des universités, afin qu'elle soit interdite de parole dans l'université de Lyon 2. En accord avec les organisateurs, Mme Aboudaka a accepté de ne pas être à la tribune, elle était dans la salle, et à la demande de la salle, elle a pris la parole. Ensuite, elle s'est rendue à Saint-Étienne, puis à Metz, où là, interdiction. Interdiction parce qu'entre-temps, non, c'était même avant qu'il y ait l'attaque du 7 octobre. Lorsqu'elle est arrivée à Metz, il y a eu interdiction de la salle. Elle devait y intervenir le 10 octobre, après l'attaque du Hamas dans la bande de Gaza. Madame Aboudaka est membre du Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation marxiste et qui n'a rien à voir avec le Hamas. Mais malgré tout, il a fallu se déchaîner contre elle. Une dame de 72 ans, docteur en philosophie, qui devait être absolument très dangereuse pour que Monsieur Darmanin s'agite ainsi contre elle. Lorsqu'elle est arrivée chez nous, à Marseille, elle est ensuite intervenue à Martigues, dans les locaux de l'Union locale CGT, où elle a été interdite de parole. La conférence s'est tout de même tenue. Puis, le lendemain soir, elle devait intervenir dans une salle mise à disposition par la municipalité qui, sous pression de la préfecture, a décidé d'interdire la salle. Et quelques heures avant, donc, il y a eu cette interdiction. Heureusement, il y a encore dans notre pays des gens qui sont capables de résistance. Et elle a trouvé refuge. Nous avons tous trouvé refuge, une assistance nombreuse, dans une salle, mise à disposition par un personnel courageux qui a déclaré, en reprenant les paroles du président de la République, « Si nous sommes en guerre, moi, je suis en résistance. » Oui, il y a encore des résistants dans notre pays et nous en sommes heureuses. La conférence est tenue et à Marseille, toujours sur pression, la salle que nous avions réservée depuis plusieurs mois nous a été supprimée la veille ou l'avant-veille, alors que tous les jours nous allions consulter pour être sûr qu'il n'y avait pas de pression venue d'ailleurs, pour être sûr que s'il y avait une interdiction, nous aurions le temps d'aller en référer auprès de la justice. Eh bien, il n'y a pas eu besoin d'avoir d'interdiction puisque la salle a été retirée parce que la préfecture faisait pression pour trouble à l'ordre public, comme c'est le cas dans tous les cas. Alors nous disons, qui trouble l'ordre public lorsque ce n'est pas nous ? Qui pourrait venir troubler l'ordre public lorsque nous organisons une conférence ? Et s'il y a menace de trouble à l'ordre public, dites-nous qui va troubler l'ordre public. Parce que nous, nous sommes sereins et nous faisons les choses dans la sérénité. Il n'y a jamais eu un incident à Marseille, un seul incident à Marseille, lorsque les manifestations avaient lieu en 2008, en 2014, en 2017, en 2019, en 2018 et même en 2021. Nous avons pu tout de même trouver une salle offerte par une paroisse qui nous a accueillis, et quelque part il y a quelque chose de symboliquement très beau dans le fait que ce soit une paroisse qui a accueilli une femme palestinienne qui était pourchassée par M. Darmanin. Tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. La conférence a eu lieu. La salle était remplie à craquer. Nous avons refusé des dizaines de personnes pour des raisons de sécurité. Et puis, le lundi matin, alors que Mme Aboudaka, en compagnie du porte-parole de l'Union juive française pour la paix, qui va intervenir tout à l'heure, alors que Mme Aboudaka partait pour Toulouse pour tenir une autre conférence le soir même, eh bien, la police française est intervenue sur ordre du ministre de l'Intérieur qui avait signé un arrêté d'expulsion, et la préfecture de police avait donc pris un arrêté d'assignation à résidence puisqu'il était impossible d'expulser Madame Aboudaka vers la bande de Gaza qui était bombardée par les amis de Monsieur Macron et Darmanin depuis déjà plusieurs jours. Donc Madame Aboudaka a été assignée à résidence dans un hôtel. Et elle devait tous les jours signer à midi et demi dans un commissariat, d'abord le commissariat du 15e. Et il s'est passé alors quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'avant, la presse ne s'intéressait pas du tout à ce qui se passait, eh bien, d'un seul coup, les sollicitations sont arrivées de tous les côtés. Des journaux qui, jusqu'à présent, n'ont jamais fait un article sur tout ce qui pouvait se passer sur la Palestine lorsque nous organisions des événements à Marseille, se sont manifestés. Demande d'interview à droite, demande d'interview à gauche. Nous ne savions plus où donner de la tête. Et Pierre Stamboul, qui était le porte-parole du collectif au nom de l'UGFP, a pu s'exprimer sur pratiquement toutes les radios. Peut-on dire, malgré tout, de notre côté, que c'est grâce à M. Darmanin qu'il y a eu un si grand intérêt pour Mme Aboudaka ? Nous n'en sommes pas loin de le penser, car sinon, comme à chaque fois, il y aurait peut-être eu du silence autour de sa présence et autour de tout ce qu'elle avait à dire, tout ce que les Palestiniens ont à dire. Mais malheureusement, les Palestiniens n'intéressent nos médias soit lorsqu'ils sont tués ou lorsqu'ils tuent. Sinon, on peut les laisser mourir discrètement. On ne s'en préoccupe pas. Encore faut-il qu'ils soient tués en grand nombre pour attirer l'intérêt de nos médias et de nos politiciens. Donc Madame Aboudaka a été assignée à résidence dans un hôtel. Il se trouve qu'elle a étudié dans les pays de l'Est, qu'elle parle parfaitement plusieurs langues et qu'elle a pu retrouver dans cet hôtel des personnes qui étaient mises à l'abri, comme on dit, et qui venaient de l'Est. Elle a pu aussi y trouver des salariés qui venaient du Maghreb et elle a été entourée par les uns et par les autres. Elle a pu bénéficier de la solidarité du peuple de France, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Ils ont été cordiaux, ils ont accompagné, ils l'ont entouré et ça l'a réconforté quelque part. Voilà, ça c'était pour les premiers jours. Puis il y a eu une avocate remarquable qui a pris le dossier en main et qui est allée plaider auprès du tribunal administratif à Paris. Tout simplement parce qu'étant donné qu'il s'agissait d'un arrêté ministériel, eh bien il fallait que ce soit à Paris. Et donc cela a été plaidé et le tribunal en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence, a cassé la décision de M. Darmanin. La deuxième étape maintenant, c'est la procédure d'appel. Lorsqu'il y a un jugement, il y a appel. Tout de suite, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il allait faire appel. Donc, à ma connaissance, nous sommes pratiquement une semaine après la décision de casser l'arrêté d'expulsion. Et à notre connaissance, l'appel n'a toujours pas été fait. Il faut savoir que dans ce type de procédure, l'État dispose de 15 jours pour faire appel et l'appel sera traité par le Conseil d'État, qui est la plus haute instance administrative. Donc nous attendons s'il y a appel et s'il y a appel, il y aura dans la semaine qui suit une décision du Conseil d'État par rapport à Madame Aboudaka. Qu'est-ce qu'il va lui advenir ? Il y aura ensuite une procédure qui sera faite au fond et qui se terminera, suivant les cas, devant toutes les instances. Nous ne lâcherons pas, nous irons au bout parce que cet arrêté d'expulsion est absolument odieux. C'est simplement une tentative supplémentaire de faire taire la voix du peuple palestinien. C'est une tentative pour nous intimider, c'est une tentative pour limiter nos libertés, car nous avons le droit d'entendre autre chose que ce que le gouvernement veut nous faire entendre. Nous ne lâcherons rien, nous irons au bout, ou quel que soit le bout, c'est-à-dire le Conseil d'État. Ensuite, il y aura, je ne maîtrise pas très bien les procédures administratives, mais en tout cas, ça se terminera sans doute si nous n'avons pas gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme. Car il n'est pas possible de laisser avancer à grands pas la dictature en marche. Voilà, je vais faire une toute petite pause peut-être, et puis on va revenir sur une chronologie de la Palestine avec quelques citations de différentes personnes qui sont allées en Palestine depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés, la mer on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra.
88.4, Radio Galère, une heure en Palestine. Je reviens sur l'interview de Maryam Aboudaka, qu'elle a accordée le 14 octobre, avant l'arrêté d'expulsion, à un jeune étudiant en journalisme qui lui pose la question suivante. D'où provient votre inébranlable engagement dans la résistance palestinienne ? Elle répond « Dès l'instant où je suis née en 1951, la résistance était au plus profond de mon être. » Parce que cette dernière trouve son origine bien avant la proclamation de l'État d'Israël. Elle était déjà bien présente durant le mandat de la colonisation britannique, de 1920 à 1948. Il y a eu une transmission de cette lutte qui s'est faite au fil des générations. J'ai donc grandi naturellement dans un environnement où la résistance était très ancrée. Les femmes palestiniennes s'engagent très tôt, et ce sont elles qui payent le plus lourd tribut. À 15 ans, je suis passée devant 3 juges militaires qui m'ont condamnée à la prison pour terrorisme. Mais mon courage et mon engagement n'ont jamais cessé de grandir et de se renforcer lorsque j'étais en cellule avec d'autres femmes de mon âge. La deuxième question est, vous êtes aujourd'hui présidente du conseil d'administration de Palestinian Development Women's Studies Association. Quels sont les objectifs de votre association ? Le but premier est d'assurer l'évolution de la femme. Nous voulons arriver à lui donner une conscience politique propre, lui donner un poids social fort dans la société palestinienne, lui apporter une aide psychologique conséquente lorsqu'elle vit des drames comme ceux qu'elle subit aujourd'hui en Palestine. Nous voulons également la soutenir sur le plan juridique et économique. Tous les combats de l'association sont ceux que je mène depuis le début où j'étais encore en Palestine et aujourd'hui, maintenant que je suis en France. Mon intervention dans cette conférence ici à Marseille et dans 14 autres villes du pays en est un exemple. Quelles sont les craintes que vous éprouvez envers ces femmes et ces hommes qui subissent cette nouvelle guerre ? Je redoute personnellement, tout comme la société palestinienne, une nouvelle Nakba, comme en 1948, c'est-à-dire une catastrophe, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. C'est-à-dire avec les meurtres, les déportations, les spoliations des terres durant l'avènement de l'État d'Israël, dans la partie de ce qu'on appelle la Palestine 1948. J'ai peur que d'autres massacres, comme celui de Deir Yassin, cette même année, où de nombreux villages ont été complètement rasés et où les morts sont comptés par dizaines, par centaines, se reproduisent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une volonté réelle d'extermination et de nettoyage ethnique qui se déroule sur la Palestine de la part d'Israël. Quelles violences subissent les femmes palestiniennes dans ce conflit ? Les violences psychologiques, premièrement, répond Mariam Aboudaka. Elles se retrouvent à porter tout le poids de la guerre sur leurs épaules lorsque les maisons sont détruites, lorsque leur mari ou leur fils meurt au front ou durant un bombardement, lorsqu'ils sont emprisonnés ou handicapés durant la guerre. Elles sont touchées par le plus grand des désespoirs avec toutes ces problématiques à gérer. Et bien sûr, il y a les violences sexuelles qui sont commises lorsque les femmes sont en prison. Les menaces de viol peuvent être fréquentes. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux Palestiniens qui subissent une nouvelle fois ce conflit ? Mariam répond « C'est un message d'espoir que je veux leur porter car elle ne nous a jamais quittés et ne nous quittera jamais parce que nous avons un droit pour lequel nous nous battons et nous nous battrons pour le garder. Depuis 75 ans et la catastrophe, la Nakba, qui est la création d'Israël, notre peuple reste vivant. Nous donnons et continuerons encore à fournir énormément de sacrifices et nous obtiendrons la libération tôt ou tard. Les seuls alliés de la Palestine seront les peuples du monde, pas les gouvernements. Nous comptons sur la conscience et l'éveil du monde pour nous accompagner sur le chemin de la libération. Nous savons que le prix à payer pour atteindre la victoire sera extrêmement lourd. De nombreuses vies palestiniennes vont être ôtées, beaucoup de sang va couler et le pays sera probablement détruit. Mais ce ne sera qu'un passage à surmonter. Nous sommes convaincus que nous allons gagner et que nous aurons enfin notre liberté. Voilà quelles étaient les paroles de Mariam Aboudaka le 14 octobre. Elle a appris depuis la mort de 30 membres de sa famille, la destruction de toutes leurs habitations, la destruction de son quartier. Et aujourd'hui, le bilan est de près de 6000 morts, dont plus de 2000 enfants, puisque la population de Gaza, qui est de 2,3 millions de personnes, d'êtres humains et pas d'animaux, même pas d'animaux humains, d'êtres humains, dont l'humanité dépasse beaucoup celle de certains dirigeants, hommes politiques ou militaires. Eh bien, ces 2,3 millions d'habitants sont à pour plus de 50% des enfants de moins de 18 ans et pour 75% des réfugiés de villages détruits lors de la création de l'État d'Israël et dans les années qui ont suivi. Voilà, Mariam Aboudaka n'a plus de maison et a perdu une grande partie de sa famille, mais pour M. Darmanin, c'est elle la terroriste. Alors je voudrais revenir maintenant, sans réelle transition, en attendant que l'on appelle Pierre Stamboul à 18h30. Eh bien, vous raconter un petit peu ce souvenir de voyage au XIXe siècle pour illustrer ce qu'était cette terre sans peuple, comme disaient les sionistes. Alphonse de Lamartine, en 1831-1832, écrit ceci. Nous approchons de Jaffa. On marche sous la voûte élevée et odorante d'une forêt de palmiers, de grenadiers chargés de leurs étoiles rouges, de cèdres maritimes aux feuillages de dentelle, de citronniers, d'orangers, de figuiers, de limoniers, grands comme des noyers d'Europe et pliants sous leurs fruits et sous leurs fleurs. L'air n'est qu'un parfum soulevé et répandu par la brise de mer. Le sol est tout blanc de fleurs d'oranger et le vent les balaye comme chez nous les feuilles mortes en automne. De distance en distance, des fontaines turques en mosaïque de marbre de diverses couleurs, avec des tasses de cuivre attachées à des chaînes, offrent leur eau limpide aux passants et sont toujours entourées d'un groupe de femmes qui se lavent les pieds et puisent l'eau dans des urnes aux formes antiques. La ville élève ses blancs minarets, ses terrasses crénelées, ses balcons en ogives mauresques, du sein de cet océan d'arbustes embaumés et se détache à l'orient du fond blanc de sable qui étend immédiatement derrière elle l'immense désert qui la sépare de l'Égypte. Alphonse de Lamartine, 1831-1832. Le voyage en Terre Sainte, lui, composé par Maître Denis Posso et achevé par Messire Charles-Philippe en 1532, on trouve ceci, page 129. Rama, c'était Ramallah, il y a bon païs. Le soir, visp force palme, dattier, sycomore, capre, comme groseillier, olivier, grenade. Il y a de Jaffa à Rama, 10 000, tout beau chemin entre lesquels ville. Il y a village, où sont petits temples de sarrasins à tourelles rondes, comme les moustiers de Venise. Frère Géantenot, dans Voyage d'Outre-mer en 1512, publié et annoté par Charles Schaeffer à Genève dans les éditions Slatkin, notre chemin fut par Gaz, c'est-à-dire Gaza, qui est une belle ville sans murailles, en moult bon pays assise, pleine de gens et de biens. 1512. La terre sans peuple avait déjà un peuple, mais les sionistes ne le voyaient pas. Et le colonialisme occidental a tout fait pour le masquer. Et puis, je crois qu'on reviendra dans une prochaine émission sur toute cette période bien antérieure, parce que, vous le savez peut-être, mais les peuples se sont succédés dans cette région. Et si l'on regarde la préhistoire, l'archéologie préhistorique nous apprend que des grands progrès humains apparaissent en Palestine aussi vite que dans d'autres régions du croissant fertile. Au paléolithique, l'outillage, de l'homme d'Ubaidie est proche par sa technologie de celui d'Olvoudouvaï en Afrique orientale, le plus ancien connu. Les hommes du Carmel, grottes de Taboun et Kafsay, sont dotés au carbone 14 entre 52 000 et 35 000 ans. Au néolithique, la sédentarisation, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture, a eu lieu environ 7 000 ans avant notre ère. D'après les fouilles faites à Wadi Natouf, à cette époque, à Jéricho, l'habitat groupé et organisé apparaît. Et puis il y a l'âge du cuivre, moins 3600 ans à moins 3200 ans avant notre ère. Des agglomérations où coexistent outillages de pierre, objets de cuivre, céramiques à décors géométriques et tissages de lin ont été fouillés à Tel Aït Rasoul, Tel Abou Matar, Beer Safadi, Kirbet el-Bitar. Vous le voyez, la Palestine n'était pas une terre sans peuple, dès la préhistoire. Et depuis, des peuples sont arrivés, d'autres sont passés, certains se sont intégrés, d'autres ont été chassés, mais tous, ont voulu vivre et sont aujourd'hui les Palestiniens. Il n'y a jamais eu de terre sans peuple en Palestine. Voilà. On fait une pause et on appelle Pierre Samboul. Un peu de musique. Ou alors on continue encore un petit moment en attendant. Hein. Je voulais revenir sur cette époque. Alors je reviens, je rouvre mon petit livre. On ne va pas trop parler de ce qui s'est passé dans cette période, au moment de la création de l'État d'Israël, avec toutes ces avant la création de l'État d'Israël, depuis les échanges entre Mac Mahon et le shérif Hussein, avec la promesse faite par les Britanniques d'un grand royaume arabe, alors que la perfidie britannique faisait qu'il n'y avait jamais eu l'intention de tenir les promesses faites au shérif de la Mecque. La déclaration Balfour l'antisémite, alors que dans le cabinet ministériel, la seule personne qui s'opposait à l'idée d'un foyer national juif en Palestine était Lord Montagu, le seul ministre juif du gouvernement britannique à l'époque. La déclaration Balfour, parce que les Balfour estimaient que ces juifs étaient inintégrables, inacceptables dans la société. Et puis il y a eu le mandat britannique, il y a eu l'alliance sioniste raciste, nazie, pardon, et puis les lois d'exception britanniques. Le 29 novembre 1947, la résolution 181 des Nations Unies qui partage la Palestine en deux États avec la superficie de l'État dit État juif qui faisait à peu près 51 ou 52% du territoire de la Palestine historique et l'État dit arabe qui devait faire à peu près 49%. Les massacres divers et variés, la déclaration d'indépendance, et puis on arrive rapidement. Au 13 novembre 1974, Arafat, devant l'Organisation des Nations Unies, il dit « Pourquoi ne pourrais-je pas rêver? Pourquoi ne pourrais-je pas espérer? Alors que la révolution consiste à concrétiser les rêves et les espoirs. Agissons ensemble afin que le rêve devienne réalité. » Afin que de mon exil, je rentre avec mon peuple pour vivre avec ce juif combattant et avec ses camarades, ainsi qu'avec cet évêque courageux et ses frères, dans le cadre d'un seul pays démocratique, où chrétiens, juifs et musulmans vivront dans un État fondé sur une base de justice, d'égalité et de fraternité. Je fais appel à vous pour que vous mettiez notre peuple à même d'établir sur sa propre terre son pouvoir national indépendant. Je suis venu tenant d'une main un rameau d'olivier et de l'autre un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. La guerre embrase la Palestine, mais c'est aussi en Palestine que la paix renaîtra. C'était Yasser Arafat, mais nous avons laissé. Les peuples du monde, l'ONU, a laissé tomber le rameau d'olivier et porte la responsabilité de ce qu'il se passe aujourd'hui.
قلبي قمر أخضر قلبي بستان في العوزان. يحطوني وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا وأنا وأنا
Voilà, avec quelques difficultés techniques, mais c'est bien réparé maintenant. Vous avez pu apprécier, Marcel Ralifet et toute cette magnifique chanson. Donc, Pierre Samboul.
Bonjour.
Alors, écoute, on voulait absolument que tu interviennes pour justement nous parler un petit peu. En tant que porte-parole de l'Union juive française pour la paix, il nous reste à peu près 15 minutes. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de tous ces voyages qui viennent d'avoir lieu en Israël, à Ramallah, à Amman et au Caire, soit par notre président, soit par Biden, soit par Madame Bonne-Pivet, Monsieur Ciotti, Monsieur Habib Meyer, l'ami personnel de Netanyahou, et par certains Lefebvre. Voilà.
Yael Bonne-Pivet, ne l'oublie pas.
Oui.
Bon, ben écoute, on sait depuis assez longtemps qu'une partie de cette guerre se joue évidemment à l'étranger, notamment en Occident. On sait que ce sont des années de complicité et d'impunité qui permettent aujourd'hui à Israël de réaliser ce qui ressemble de plus en plus à un génocide, et la quantité de bombes qui sont tombées sur Gaza, ça équivaut à Hiroshima aujourd'hui. Et on sait que c'est cette complicité, c'est l'impunité. Ce sont des décennies d'impunité qui ont construit en Israël une société où tuer l'autre est devenu un acte complètement banal. Alors, pour tous ceux qui espéraient qu'après Trump, Biden, ce serait mieux, on a eu la réponse assez rapide, c'est la réponse à l'impérialisme tel qu'il s'est toujours manifesté. C'est le retour aux années de ce que les États-Unis avaient fait au Vietnam, les coups d'État fascistes en Amérique latine, tous les coups tordus un petit peu partout dans le monde. Là, Biden qui débarque en Israël, qui promet un pont d'arbre absolument sans interruption et sans la moindre parole de arrêter les combats, cesser le feu, épargner les vies humaines, strictement rien, et qui reprend le discours habituel qu'évidemment les Palestiniens sont des terroristes et Israël un État démocratique. Rien d'étonnant sur Biden, simplement quand même une chose, il y avait des négociations en cours entre Israël et l'Arabie Saoudite. La guerre les a fait arrêter, la normalisation, si elle a lieu, elle aura lieu plus tard. Et il y avait un projet d'une espèce de sommet des collabos à Amman entre Biden, le roi de Jordanie, le roi d'Arabie Saoudite, celui qui dissout ses opposants à l'acide, et le dictateur d'Égypte Sisi, et Mahmoud Abbas, bien sûr. Et ce sommet n'a pas eu lieu non plus, parce que c'est tombé évidemment le jour où les Israéliens ont détruit l'hôpital Al-Ali avec environ 500 morts. Et puis, on arrive bien entendu au Parlement européen et Madame von der Leyen, mais c'est toute la politique de complicité incroyable de l'Allemagne. Alors là aussi, j'ai des choses à dire. Que les Allemands se sentent coupables sur ce que un régime allemand a fait aux Juifs, on veut bien le comprendre. Ça n'a aucun rapport avec l'État d'Israël. Quand on est coupable de quelque chose, on répare sa faute, on ne la fait pas subir, on ne fait pas subir les conséquences de sa faute sur quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, en Allemagne, tout ce qui est pro-palestinien est totalement interdit. Le 15 mai, le 75e anniversaire de la Nakba, le nettoyage ethnique prémédité, n'a pas pu avoir lieu à Berlin où vivent 50 000 Palestiniens. Notre association sœur, à nous, l'Union juive française pour la paix, en Allemagne, Yudish Estime, qui est une association formée d'Israéliens d'origine allemande qui ont fui Israël parce que c'est devenu invivable, parce qu'ils sont antisionistes et parce qu'ils sont pour le boycott, le gouvernement allemand a fait fermer leur compte bancaire. Donc un gouvernement allemand avec une extrême droite ex-nazie qui fait maintenant plus de 15% des voix en Allemagne, qui ferme le compte d'une association juive antisioniste. On est véritablement le monde sur la tête. Et on arrive à la France. Alors déjà sur la France, les Français d'Israël ont voté 53% Zemmour au premier tour des présidentielles. Zemmour qui explique que Pétain ne voulait pas tuer les Juifs et que, au contraire, il a voulu les sauver. On est aussi là en pleine irrationnelle, en pleine folie. Il fut un temps où des gens qui n'étaient pas ma tasse de thé, parce que bon, les gens se doutent un petit peu des idées que je peux avoir, je parle du général de Gaulle ou de Jacques Chirac, essayaient de maintenir la France au moins dans une politique de neutralité ou au moins dans une politique où on tenait compte de tout le monde, et y compris évidemment des Palestiniens. Cette période, elle a disparu avec Sarkozy, qui déjà, en 2008, lors du massacre de Plourd-Urcy, disait qu'il allait amener un sous-marin français au large de Gaza pour empêcher le Hamas de reconstruire des tunnels. Elle s'est aggravée avec Hollande, qui a organisé un bal de soutien à l'armée israélienne en 2014 dans l'ambassade de France de Tel Aviv, pendant un massacre qui a duré 52 jours et qui a fait 2400 morts. Elle a continué avec son ministre Valls qui disait « Ma femme étant juive, je suis indissolublement lié à la sécurité d'Israël, je découvre que c'est transmissible. » Et avec Macron, là, on atteint absolument le pire. Alors, on atteint le pire déjà à l'intérieur de nos frontières, c'est-à-dire que Darmanin, on sait déjà qu'il y a des attaques de plus en plus graves en France aux libertés fondamentales. On sait que la France de Macron et Darmanin est en train de virer à l'illibéralisme, un peu comme la Turquie d'Erdogan ou la Hongrie de Orban, c'est-à-dire à piétiner allègrement les libertés fondamentales et les droits humains. On l'a vu avec les manifestations nassées, on l'a vu avec les gilets jaunes estropiés, on le voit avec les migrants qui meurent en Méditerranée, on le voit avec une stigmatisation.
Alors, j'ai l'impression, Pierre, que tu n'es plus en ligne. On essaye de te rappeler pendant ce temps. Et je vais profiter justement de ces quelques minutes où on te rappelle pour annoncer les événements qui vont avoir lieu à partir de vendredi soir. Alors, notez bien, crayon, papier et soyez attentifs. Vendredi soir, 19h30, au cinéma Le Gyptis, avec le Festival Ciné Palestine, projection de films sur Gaza. Vendredi soir, 19h30. Puis samedi, 14h30, manifestation à partir de la Porte d'Aix à 14h30 dans le cadre de manifestations qui vont être sur tout le territoire national. Et le soir, samedi soir, 18h30, une veillée qui aura lieu sur le quai du port face à la mairie, où nous lirons des poèmes, où nous écouterons de la musique, où évidemment il y aura des discours politiques. Voilà, je crois qu'on a retrouvé Pierre. Vas-y Pierre, tu es revenu à l'antenne.
J'étais coupé à quel endroit ?
Oh, je ne sais plus, j'ai parlé entre-temps. Je crois que tu avais parlé de Valls.
Ah, d'accord. Voilà. Donc j'en étais à la France. Je disais qu'après Valls et après Hollande et Valls, on a Macron et on a Darmanin. On a une politique illibérale qui est menée en France.
Oui. Eh bien, allô ? Oui, tu es toujours à l'antenne.
D'accord. On a une politique illibérale qui est menée en France, une violation fondamentale d'un certain nombre de libertés, un petit peu comme en Hongrie ou comme en Turquie. Et ça a commencé avec les gilets jaunes qui ont été éborgnés et estropiés. Ça a continué avec les manifestations nassées, avec les syndicalistes arrêtés, avec les migrants qui se noient en Méditerranée, avec la stigmatisation permanente des musulmans, avec des violences policières qui n'ont jamais été punies. Mais le pompon, c'est maintenant Darmanin qui, du jour au lendemain, interdit toutes les manifestations pour la Palestine et tente d'expulser Myriam Aboudaka.
On en a longuement parlé, hein. J'ai longuement évoqué le cas de Maria.
Voilà,
mais
ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que cette complicité de la France, heureusement, des juges ne l'ont pas acceptée, puisque la plupart des manifestations interdites ont finalement eu lieu, mais elle se manifeste non seulement dans la politique intérieure, mais dans la politique extérieure. Le voyage de Macron au Proche-Orient, c'est une caricature ambulante. Il va en Israël, il va rencontrer les Israéliens d'origine française. Pas un mot, évidemment, sur toutes les victimes palestiniennes, pas un mot pour demander l'arrêt des bombardements. il est reçu par Netanyahou, autrement dit par un gouvernement fasciste et suprémaciste. Ça ne lui pose évidemment aucun problème, comme ça ne lui pose aucun problème d'avoir les meilleures relations du monde avec le roi d'Arabie Saoudite qui fait dissoudre ses opposants à l'acide. Mais le pire du pire, c'est qu'il dit comme ça, un petit coup, je vais envoyer l'armée française qui se trouve au Proche-Orient pour combattre Daesh, je vais l'envoyer combattre le Hamas. Je ne sais pas si les gens réalisent la stupidité et la dangerosité d'un discours pareil et ce que ça veut dire. Ça met tout le monde absolument en danger. C'est d'une stupidité absolument sans nom. C'est criminel parce que ça a l'air de dire que les terroristes, ce sont les Palestiniens. Et il n'y a évidemment pas un mot sur le terrorisme principal qui est le terrorisme de l'État d'Israël. Il n'y a pas un mot sur le tapis de bombe qui s'abat sur, sur la Palestine et sur Gaza. Il n'y a pas un mot sur les enfants assassinés, sur les hôpitaux qui n'ont plus ni électricité, sur le fait que les gens n'ont plus d'eau ni, et plus de nourriture, surtout plus de carburant. Et évidemment, après, comme il ne faut pas abandonner tous les dictateurs, il est aujourd'hui en Égypte auprès de son ami, le général Sissi, qui maintient
Maréchal, s'il te plaît.
Le blocus de Gaza. Donc on a une politique intérieure catastrophique sur le plan des libertés et sur le plan des atteintes sociales, mais on a aussi, ce que les gens savent beaucoup moins, une politique étrangère qui est une politique impérialiste, qui est la continuation des interventions militaires de la France un petit peu partout dans le monde, et notamment en Afrique. Je crois que les gens doivent véritablement en avoir conscience. La France aujourd'hui, elle est devenue une espèce de pio avancé d'un impérialisme mondial, occidental, qui essaie à tout prix de maintenir sa domination sur le monde, et pour lequel Israël est un allié fondamental. Mais ça, ça va à l'encontre des peuples, ça va à l'encontre de la sécurité de tout le monde, et c'est un crime contre le peuple palestinien.
Voilà, mais écoute Pierre, je te remercie beaucoup. Je tiens aussi à ce qu'on l'en dise sur l'antenne de Radio Galère, que nous sommes, parce que nous suivons aussi toutes les réactions de par le monde, que nous saluons tous ceux qui, de par le monde, et ils sont des milliers, des dizaines et des centaines de milliers, à manifester quotidiennement, partout dans le monde. Et parmi eux, nous entendons toutes les voix juives qui s'élèvent. Depuis Washington, depuis les villes aux États-Unis, Jewish Voice for Peace est rentré dans le Capitole, me semble-t-il, ou dans le Parlement, je ne sais plus exactement, avec des centaines d'Américains de confession juive pour crier « pas en notre nom, cessez le feu immédiat ». Et nous devons les saluer et dire que leur courage nous inspire. Mais
et
aussi,
ils parlent de génocide.
Oui, ils parlent d'apartheid, ils parlent de génocide.
Absolument.
Et nous devons aussi voir ce qui se passe du côté d'Israël. Saluer, par exemple, cette fabuleuse déclaration du Parti communiste israélien. Saluer toutes ces voix qui s'élèvent. Là, je suis sur mon téléphone, les déclarations de Miko Peled, le fils du général, qui intervient, lui, en tant que com d'Ashbur, qui a été élevé dans une famille sioniste, avec dans sa famille des gens qui ont participé à la création de l'État d'Israël. Son père, le général Matityahu Peled, qui était un grand général de l'armée israélienne, qui, sur la fin de sa vie, avait compris ce qu'était le colonialisme israélien et était rentré dans le camp de la paix. Et Matty Peled, par exemple, dit que nous sommes à un moment historique et que ce qui s'est passé, que parler de cesser le feu n'est pas suffisant. Il faut demander un changement et exiger, eux, en tant qu'Israéliens, un changement de politique immédiat. Nous pouvons saluer des dizaines et des dizaines d'Israéliens, de journalistes israéliens. Vas-y.
Amiraz, Gideon Levy, des déclarations fantastiques.
Et puis tous ceux qui sur Internet aussi dénoncent, je pense en particulier à cette jeune femme qui a survécu aux massacres qui ont eu lieu dans les kibbutz autour de la bande de Gaza et qui dit, qui accuse le gouvernement israélien d'être responsable de tout cela. Voilà, je termine là-dessus parce que je veux redire les annonces de ce qui va se passer ce week-end. Vendredi soir, 19h30 au Gyptis pour la projection d'un film et une discussion autour de la situation. Samedi à 14h30 à la Porte d'Aix pour une manifestation, pour un cessez-le-feu et pour le respect du droit international. Et puis le soir à 18h30, une veillée avec bougies, avec poésie, avec musique, pour, et aussi avec déclaration politique, pour dire que maintenant, ça suffit. Il faut revenir au droit international, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter le nettoyage ethnique. 2200, je ne sais pas combien on sera samedi, enfants tués. Nous ne voyons pas les images. Elles sont sur Al Jazeera. Elles sont sur Instagram. Les massacres qui ont lieu aujourd'hui, nous ne les pardonnerons pas. Voilà. On termine aujourd'hui. On vous demande à toutes et tous de rester calmes, sereins. Ne tombez pas dans les provocations. Participez aux manifestations. Et puis, on ne lâche rien. La lutte continue. Prenez exemple sur la dignité du peuple palestinien. On continue. On ne lâche rien. À la semaine prochaine. Shalabi